Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Pascal Brocolicchi et pour une grosse partie de mon travail, j'interroge la place du son et ses conséquences essentiellement dans l'espace. La dernière fois qu'on s'est vu, il y a un an, pour la première réunion du symposium, j'avais présenté à ceux qui étaient présents un projet qui s'était tenu au CAPC à Bordeaux. Et surtout, à travers cette présentation, j'essaie d'illustrer la question du son dans l'idée où lorsque je m'interroge là-dessus, j'observe à la fois ce qui détermine un phénomène acoustique et en même temps l'ensemble des modèles qui conditionnent notre perception auditive en vue d'une quelque chose qui pourrait représenter une unité esthétique et puis surtout d'un projet qui généralement convoque l'espace. Pourquoi j'ai précisé dans ce titre surface de propagation, parce que effectivement on aurait pu imaginer des volumes de propagation puisqu'il s'agissait bien d'ondes qui se propagent dans l'air, mais on va pouvoir s'apercevoir sur les projets que je vais présenter que la plupart du temps la forme précise qu'ils prennent est, on peut dire, au service de phénomènes acoustiques qui vont mettre en relation l'image de ce que ça pourrait produire lorsque on imagine une propagation dans l'espace et le mouvement du spectateur. La question de déambulation, la question de parcours dans l'espace est pour moi très importante puisque elle part beaucoup plus tôt que l'idée du projet dans une exposition. Elle va même beaucoup plus loin que ça. Elle démarre lorsque je vais assez régulièrement dans les déserts pour y faire des parcours assez longs, des marches assez longues, au cours desquelles je vais imaginer, avec l'absence totale de repères géographiques, je vais essayer d'imaginer des sortes de pointages, de localisations dans ces régions-là, qui vont m'aider ensuite à reconstruire le cours de la mémoire des choses et des mouvements, des parcours que je fais dans ces régions-là. De fait, puisqu'il n'y a pas de repère géographique, forcément, je m'en retourne à la question du temps, de la durée, et puis des rythmes aussi, ces espèces de structures rythmées par le mouvement, qui paraissent extrêmement abstraites à dire comme ça, aujourd'hui, mais dans le contexte, ce sont des espèces de morceaux de temporalité extrêmement précis que je capte d'une manière usuelle. Je les capte avec des appareils d'ondes électromagnétiques, des magnétophones, des paraboles, et ça m'aide petit à petit à construire cette espèce de lecture de la topographie qui devient progressivement comme ça une carte de ces lieux. Alors quand je dis de ces lieux, c'est vrai qu'à un moment donné, on est à la limite, on est à la frange entre lieu et non-lieu. En même temps, des lieux qui s'inscrivent davantage dans un temps, dans une durée, c'est un peu la figure pantopique, c'est-à-dire que là, on est au bord de ce qu'on a pu entendre ces deux jours-là, au bord des zones de non-limite illimitées. Et puis, c'est pratiquement sur ce rythme-là que se composent les intentions. Et ensuite, ces espèces d'expériences vécues que je vais calquer, que je vais reconvoquer dans les lieux où on m'invite pour travailler. Donc je remonte très rapidement cette image-là que j'avais présentée l'an dernier, puisque là, lorsque je parle de surface de propagation, on comprend bien que sur cette installation sonore, donc, qui s'appelle Dial Omap, toutes les surfaces blanches qu'on voit, qui sont le bâti, la structure de l'installation, ces surfaces-là servent toutes à renvoyer, diriger et orienter dans des zones très précises du lieu les ondes qui se propagent. Donc on a des évents, des systèmes d'abassons qui renvoient les ondes vers la hauteur de la nef et font une espèce comme ça de principe de circulation. Alors c'est quelque chose qui généralement se perçoit d'une manière physique assez rapidement, et c'est ce qui invite aussi l'auditeur, le spectateur, à démarrer des parcours dans l'espace, des parcours singuliers, qui ensuite vont être aidés par le rythme, l'écriture des sons dans ce contexte-là. Petit exemple, là au CAPC, j'avais calculer que la distance qui nous séparait d'un point à l'autre de la nef lorsqu'on la traversait d'un pas normal était d'environ 2 minutes. Et à partir de cette temporalité, de cette règle-là que je m'étais fixée, 2 minutes, c'était le temps de composition que je m'étais donné aussi pour disposer les sons et à la fois dans l'espace et à la fois dans les modules qu'on voit là, qui sont des modules de propagation et de diffusion. Donc je passe assez vite, hein, puisqu'on a un temps très très court, pour vous parler de quelque chose qui est tout à fait nouveau pour moi, puisque c'est encore fragile. C'est une exposition qui a lieu en ce moment au Parvis à Tarbes, et qui, alors, il y a deux raisons pour lesquelles elle est relativement fragile pour moi. C'est que d'une part, il y a toute une nouvelle approche de cette idée de la propagation que j'ai essayé de mettre en œuvre dans ce projet. Et en même temps, pour la première fois aussi, je rapproche deux démarches qui sont assez connexes, mais deux démarches quand même que je n'avais jamais essayé de montrer ensemble jusqu'à présent. C'est-à-dire celle qui serait une prise avec la réalité lorsque le dispositif sonore l'exacerbe, la révèle, et puis tout autour, comme une espèce de halo, de ceinture autour de ce dispositif. Alors là, dans cette autre catégorie de mon travail, qui serait plutôt davantage une démarche de représentation des contextes à travers le dessin. J'irai très vite aussi pour le dispositif sonore, mais vous verrez qu'il y a inlassablement des correspondances qui se font de l'un à l'autre. Pour expliquer un peu le contexte du Parvis, c'est quand même un contexte géographique qui est assez insolite en Europe, puisque ce centre d'art se situe dans un centre commercial qui se trouve à Tarbes. C'est sans doute le seul, mais en allant en tout cas visiter une exposition au Parvis, on peut dans un même temps aller faire ses courses au supermarché, remplir son caddie, aller acheter des livres dans la librairie qui est juste en dessous et qui est d'ailleurs une très grande librairie. Mais c'est aussi une scène nationale. Et vous allez voir que géographiquement, dans l'espace d'exposition, ça a des conséquences quand même assez importantes, puisque autour de cet espace d'exposition-là, cette scène nationale représente un cinéma, il y a 3 salles d'ailleurs, une scène, un auditorium, et pendant qu'on va voir les expositions, on peut tout aussi bien aussi aller attraper la moitié, toute ou partie d'un film, de 2 films ou 3 films, et revenir à l'exposition. Je dis ça parce que ça se fait d'une manière très fluide, puisque les portes, j'ai tenu dans cette exposition à ce que toutes les portes soient ouvertes et qu'on puisse passer des salles de cinéma à l'exposition sans problème. Deuxième chose aussi, Odile Bieck, qui en est la responsable de ce lieu, dit ceci, j'ai noté la phrase parce que c'est quand même assez éloquent, elle dit « C'est un lieu où aboutissent régulièrement des personnes égarées dans le dédale de la consommation. Une partie d'entre elles y cherche son chemin et une autre y cherche les toilettes. » qu'elle imagine facilement trouver là, dans cette sorte d'abri ouvert dont on peut avoir du mal à saisir la fonction, étant donné qu'il y a cette espèce de fluidité comme ça qui est acceptée. Alors, j'ai essayé justement d'exacerber complètement cette chose-là en partant du principe que j'allais supprimer toutes les simèses et remettre le lieu dans son état le plus simple possible, ce fameux abri ouvert dont elle parle. Et organiser l'espace par le dispositif, justement, et par les correspondances qu'il y aurait entre les dessins, la série de dessins et ces sonotubes dont je vais parler. Cet abri ouvert aussi, j'ai tenu à ce qu'il ait des caractéristiques aussi particulières liées à l'espace. J'avais l'idée de gommer complètement tous les reliefs, toutes les aspérités. Et on a utilisé alors quelque chose qui était déjà en place avant, mais que j'ai utilisé d'une manière extrêmement affirmée. Ce sont toutes ces séries de néons qu'on voit au-dessus, qui, d'une manière un peu simple, par cette lumière irradiante, gomment complètement toutes les ombres portées. Et on a cette espèce d'ambiance de lumière éthérée de lumière un peu diaphane, que j'avais essayé d'ailleurs de mettre en place au CAPC il y a un an, et qui fonctionnait d'une manière assez différente, puisque la grosse structure que vous avez vue avant donnait l'impression d'être en lévitation comme ça dans l'espace. En vérité, elle pesait plusieurs tonnes, mais donnait visuellement cette impression d'être légèrement en lévitation dans l'espace. Et là, avec les sonotubes, c'est ce que j'ai cherché à faire d'une autre manière, mais en tout cas, de créer cette espèce de fluidité comme ça, entre les dessins, qui eux aussi d'ailleurs sont dans des tonalités très éthéré, et les sonotubes qui sont complètement blanchis. Pour parler un peu, et toujours rapidement aussi, de la disposition de ces modules qui constituent l'œuvre qui s'appelle sonotube, le principe est relativement simple. Tout à l'heure, je parlais de surface de propagation et de la forme du dispositif lorsqu'elle vient servir l'échange des phénomènes acoustiques avec l'espace. Ici, on a trois tubes. Qui font 6 mètres chacun. Alors c'est assez important parce que 6 mètres, le diamètre 40 cm, ça va avoir des conséquences acoustiques très précises, puisque à l'intérieur il y a un noyau au centre assez rigide sur lequel il y a des butt kickers, des vibreurs qui viennent animer. On parle de sympathie décidément pendant 2 jours, parce que c'est exactement ce phénomène-là, qui viennent animer un ressort qui est tendu sur toute la longueur, sur 6 mètres pour chaque tube. Et ce ressort-là va récupérer la transmission solidienne des vibrations. Et puisqu'il est à l'intérieur du tube, ce phénomène acoustique-là va être amplifié, va être excité par un autre phénomène acoustique, qui est celui des ondes planes. C'est ce qu'on appelle vulgairement l'effet de gain. Mais là, ces ondes planes, en fait, elles vont être propulsées vers les extérieurs et donc, du coup, amplifiées et surtout être complètement saturées, déstructurées du son d'origine. J'y reviendrai. Donc, vous comprenez bien que chaque module autonome, puisque chaque module génère ses propres sons, va faire va indiquer au spectateur un ordre de répartition de la diffusion sonore dans l'espace. Du point où on se trouve là, on est à l'entrée en fait, hein, du centre d'art. Et comme j'expliquais, ça désigne trois zones. À l'entrée du centre d'art, on a la rumeur du supermarché qui est en dessous, qui est tellement présente, cette espèce de drone du supermarché, de masse métabolique extrêmement riche, qui à elle seule rassemble pratiquement tous les phénomènes sonores qu'on peut imaginer, en tout cas les phénomènes audibles qu'on peut imaginer, elle va masquer complètement l'entrée du dispositif, l'entrée de l'installation. Ensuite, de cette première zone, où pratiquement le supermarché gagne en puissance sur l'installation, on passe à une deuxième zone qui est celle du centre, le deuxième tube, qui lui va être en quelque sorte le nœud tonal, l'espèce de pierre angulaire, qui va être à la fois, dans ce cheminement par mixage de son, qui va être à la fois à égale puissance entre le son du supermarché et le son du dispositif sonore. Et enfin, troisième zone au fond de l'espace d'exposition, où là, cette fois-ci, le troisième tube génère des fréquences beaucoup plus fortes que les précédents et masque complètement le son du supermarché. J'ai choisi précisément pour cette pièce-là, alors que pour le CAPC, j'avais utilisé justement pendant 3 ans toutes les fréquences sonores que pouvait générer ce lieu, c'est-à-dire le bâti du CAPC pouvait générer en nombre de basses fréquences, moyennes et hautes fréquences. Là, cette fois-ci, j'ai choisi d'adopter une approche complètement différente, mais de travailler à partir de ces modules en choisissant des blocs de son, des fréquences qui pourraient rentrer en conversation avec la spécificité, la typologie des sons du supermarché. J'ai surtout évité d'utiliser des sons qui pourraient évoquer, faire penser à ceux du supermarché, justement. Mais par contre, dans leur caractère, dans leur tonalité, leur timbre et leur dynamique, ils ne sont pas très loin de ça. À tel point que ce jeu comme ça de brouillage va inciter d'autant plus l'auditeur à se déplacer pour essayer de localiser ce qui est audible, ce qui est reconnaissable du dispositif et ce qui appartient au son du milieu ambiant. C'est une espèce de récurrence dans mon travail, ce qui, à un moment donné, se chevauche, se croise pratiquement parfaitement pour donner place à une espèce d'hésitation. Est-ce que ce sont les sons ambiants qu'on entend ou est-ce que c'est véritablement la pièce qui est en train de fonctionner? Et c'est déjà un peu l'idée du silence, en fait, de la rumeur. Est-ce que le lieu est vide ou plein de l'action du dispositif? On reste toujours dans cet équivoque-là. Donc, on a bien compris, j'essaie toujours de confronter la morphologie de l'espace d'exposition avec les dispositifs. Et ici, les ondes qui sortent des trois modules, qui ont été amplifiées par les effets d'ondes planes, viennent se répercuter sur certaines parties du centre d'art. Et comme pour le projet du CAPC aussi, là, les murs servent de réflecteurs, servent d'abat-sons et de réflecteurs sur des principes d'ailleurs qui ont été évoqués aussi, puisque ce sont ces phénomènes d'ondes stationnaires, lorsque les ondes reviennent les unes par rapport aux autres, sur la course des unes par rapport aux autres, et qui créent comme ça ces espèces de variations et parfois même de zones de silence. Donc c'est aussi un principe que j'utilise assez régulièrement. Et là, cette fois-ci, dans la disposition des dessins dans l'espace, ça a été d'une manière assez clair, affirmé, puisque pratiquement toutes les zones où les ondes sont censées venir plaquer contre les murs sont vides de dessin, justement. Et c'est ce qui m'aide, en tout cas, à approcher le plan, ce que j'appelle généralement le plan d'occupation du sol, par les dispositifs. Mais c'est surtout aussi, là, cette fois-ci, dans quelque chose qui est assez nouveau, pour moi, cette correspondance qu'il y a entre quelque chose qui serait pratiquement discursif, qui serait des approches de représentation, des sortes de récits potentiels à travers les dessins, dont on va voir certains exemples, et la partie la plus concrète qui est jouée par les sons, qui, eux, de toute façon, à tout moment, échappent à une quelconque possibilité de les reconnaître ou d'identifier des objets sonores. Donc il y a deux régimes de lecture, celui qui construit l'écoute à partir des trois plans autonomes qui sont constitués par les groupes de sons, et celui qui est tracé aussi par les espaces sans frontières que produisent les dessins. Ces dessins-là, j'ai choisi depuis 4 ans de développer cette série, qui est une espèce de cabinet de curiosité, de cabinet de dessins, en utilisant la technique de la 3D, en utilisant la technique de la 3D pour des raisons très précises. D'une part, grâce à ces techniques de modelage dans l'espace, au moment de réalisation et de conceptualisation d'un projet sur un dessin, on est toujours placé dans une réalité immédiate qui est celle de l'échelle 1, c'est-à-dire que toutes les fois, c'est un principe en architecture, mais en tout cas toutes les fois qu'on va essayer de se représenter dans l'espace, on va le faire, là on en a un exemple, on va le faire à l'échelle 1. C'est aussi un principe qui permet d'imaginer que la structure tient dans l'espace, mais là elle fait à peu près une cinquantaine de mètres de haut, cette structure, et celle-ci est d'autant plus grande, mais elle n'a pas d'espace pour la localiser. Et dans cette série de dessins, j'ai choisi, de la manière la plus simple qui soit, avec la ligne d'horizon, justement, quand elle y est, d'indiquer des environnements qui pourraient être quasiment tous les environnements qu'on peut imaginer, c'est-à-dire se représenter dans l'air, sur la terre, sur la glace et dans l'eau. Et simplement par jeu comme ça de changement de tonalité dans le fond, cette ligne d'horizon m'indique soit si je suis sur un sol, soit si je suis dans un milieu beaucoup plus fluide. Et à partir de là, par la technique de la focalisation zéro, qu'on connaît à la fois aussi dans le cinéma, mais aussi dans la 3D, J'ai essayé d'imaginer toutes les possibilités de se représenter des points de fuite infinis, c'est-à-dire de perdre ses repères finalement, de ne plus avoir du tout de repères, mais d'avoir cette capacité-là d'ubiquité, de se retrouver, d'avoir la possibilité, c'est ce que permet la 3D, de se retrouver dans toutes les positions possibles et imaginables jusqu'au moment de saisie de l'image. C'est un peu d'ailleurs ce qu'on peut éprouver lorsqu'on est dans ces zones désertiques, c'est-à-dire les moyens immédiats qu'on a de se localiser alors qu'il ne reste plus grand-chose. Et à partir de là, justement, dans cette série de dessins, me rester à déblayer des champs de possibles, me dire que ça pourrait être soit des installations, des projets d'installation à venir, donc véritablement des projets préparatoires de dispositifs à créer, soit des situations complètement hybrides à partir desquelles, d'une manière complètement romanesque, on pourrait imaginer des possibilités de capter des ondes et de les restituer dans l'espace. Donc c'est à la fois récepteur, émetteur. C'est pour ça que d'ailleurs, assez souvent, d'une manière récurrente, on voit dans mes dessins souvent des antennes ou bien des paraboles, des sortes de sites comme ça qui seraient dans des lieux non repérables. Alors je dis bien, c'est pas tout à fait de non-lieux, mais ce sont de lieux multiples dans lesquels on pourrait se retrouver, sortes de tours avec d'énormes haut-parleurs, espèce de sémaphore. Celle-ci, par exemple, pourrait être un projet à venir. Ce serait une installation sur l'eau avec des bouées en mer équipées de dispositifs. Et donc, à partir de cette version de mon travail beaucoup plus narrative, beaucoup plus illustrative, il y a, dans le contexte de l'exposition, cette espèce de va-et-vient, de correspondance permanente entre les sons qui sont perçus et les images qui suscitent à travers ces dessins. J'ai essayé ensuite, d'une façon assez proche de celle de la composition des sons, d'imaginer la disposition des dessins dans l'espace. Il y en a deux générales, ce serait soit d'une manière linéaire, faire un parcours d'un bout à l'autre de l'espace, soit d'une manière croisée d'attraper les correspondances dont je parlais là. Et je me suis aperçu qu'en fait, d'une manière assez empirique, je reconnais, mais en fait, la manière de disposer les dessins dans l'espace m'a permis aussi, à un moment donné, de définir la disposition des tubes tels que vous les avez vus tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ils étaient en épi, ils étaient croisés légèrement les uns les autres. Et c'est sans doute aussi ce rapport de correspondance qui a défini cette espèce de disposition en épi et ce jeu de mixage qu'il y avait par rapport au son du supermarché. Pour préciser une dernière chose, mais j'en ai pas les images ici, cette pièce-là, les sonotubes, a été coproduite avec Transculture, avec notre ami Philippe Franck, et elle a déjà été montrée au mois de juillet au cours de City Sonics dans un contexte spatial complètement différent, où là, cette fois-ci, on arrivait, un peu comme au CAPC d'ailleurs, on arrivait par des coursives, par un premier étage, en vue plongeante sur le dispositif. Et là, cette fois-ci, donc toujours avec le même principe de découpage, de découpage des volumes dans l'espace avec les moyens dont je disposais. Là, cette fois-ci, j'avais utilisé face au tube, qui était posé en parallèle, trois parallèles. Face au tube, j'avais utilisé une grande baie vitrée qui, elle, par son rapport matériel, renvoyait, jouait le rôle de réflecteur et renvoyait les ondes de manière assez forte au premier étage de l'espace. Pour aujourd'hui, juste une précision, j'ai pas voulu vous faire écouter de ce projet, parce que je pense que, et on l'a vu au cours de ces deux journées, c'est assez délicat, c'est assez difficile de documenter par le son un projet lorsqu'on n'est pas véritablement dans le contexte. Et là, je pense que là, notion la plus importante pour moi, c'était justement de travailler dans cette espèce de précision avec le parcours du spectateur et là, cette chose qui était complètement insolite, c'était la forte présence du supermarché. Donc j'ai préféré plutôt en parler en quelques mots plutôt que le faire écouter. Parce que je pense que du coup, ce qui n'était pas le cas dans la situation réelle, du coup, les sons du supermarché deviendraient extrêmement illustratifs, alors que ce n'est pas du tout ce qui se passe dans l'exposition. Je pense avoir été assez court. Je suis dans les 30 minutes, comme promis. Merci.